des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
1-2-1-2. OK, c'est bon, on peut y aller.
Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres.
Sophie Durocher.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben, si ça va bien dans votre vie, c'est peut-être parce que vous avez réussi à mettre la main sur des laissez-passer pour le Festival d'été de Québec. C'est le gros scandale culturel des 24 dernières heures parce que, ben, vous le savez, maintenant, tous les billets, tous les laissés-passer, plutôt, pour être plus précis, ont tous été vendus. Et en plus, le Festival d'été de Québec, ça devait commencer la mise en vente à midi. Ils ont commencé à 11h. Donc, il y a plein de gens qui sont extrêmement frustrés et furieux même de pas avoir pu mettre la main sur des billets, d'autant plus que évidemment sur les sites de revente, ça pullule des fois deux fois, trois fois, quatre fois le prix demandé à l'origine. Alors là, j'apprends grâce à un collègue, Nicolas Lachance, dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, que le ministre Mathieu Lacombe, ministre de la Culture donc et des Communications, veut s'attaquer à ce modus operandi-là où des gens extrêmement bien organisés vont sur les sites internet dès la mise en vente de laissez-passer, en achètent des tonnes et des tonnes et dans les secondes, dans les minutes qui suivent, les revendent à fort prix. Et ce qui est assez amusant, là je vais faire un petit peu d'ironie, là. Bon, prenez pas tout ce que je dis au pied de la lettre. On peut taquiner, qui aime bien, châtie bien, on peut taquiner un peu notre bon ministère de la Culture parce que le ministre Mathieu Lacombe a déclaré à mon collègue Nicolas Lachance, on est conscient du problème, les gens sont déçus, d'autant plus qu'il y a évidemment énormément de fonds publics qui sont investis dans le Festival d'été de Québec, donc c'est pas normal que s'il y a de l'argent public, que ce soit pas tout le public québécois qui puisse en profiter. Mais c'est juste qu'il dit... On a mis sur pied un comité. Ben oui, c'est toujours ça que ça fait un gouvernement. Il y a un problème quelque part. On va mettre sur pied un comité. Quand est-ce qu'il a été mis sur pied, le comité? En décembre. Mais c'est parce qu'on est rendu au mois de mars, comme la deuxième moitié du mois de mars. Et là, on dit que le comité va se pencher parce qu'il y a le ministère de la Justice, il y a l'Office de protection des consommateurs, il y a toutes sortes de gens qui doivent discuter de ça. Et à terme, le comité va devoir établir si la revente sur ces sites-là devrait être interdite ou non. Par contre, M. Lacombe souligne, excusez-moi, je lis puis je ris, les rencontres avec les groupes en question n'ont toutefois pas encore débuté. Je suis suspendue à vos lèvres. Depuis le mois de décembre, là. Rendu à passer la mi-mars. On n'a pas encore rencontré les groupes concernés. Et là là, ça va vite au gouvernement. Il y a un problème, on crée un comité. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Voilà, c'était mon éditorial du jour.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher.
J'adore quand un de mes invités, un de mes chroniqueurs, un des chroniqueurs à l'émission que j'anime, m'arrive avec des éléments que j'avais absolument pas vu passer dans l'actualité. Et pourtant, je me fais un devoir le matin de lire justement le devoir, de lire la presse, de lire Radio-Canada, de lire évidemment le journal, d'aller sur tous les sites. Mais ça m'a échappé, Rémi Villemur, étudiant au doctorat en sociologie. Un gros changement quand même au niveau des cégeps.
Ouais, ben ça a échappé à peu près tout le monde à ta défense là. Ouais. J'ai pas vu personne se prononcer. Sais-tu pourquoi? Parce que la décision fait l'affaire de tout le monde. Et ça, je trouve ça louche en général.
Ah, oui. Quand une méfions-nous décision... du consensus. Rémi.
Oui, oui, ben méfions-nous de n'importe quel consensus.
Ah,
quand
je
les gens sont
compte,
tous.
J'ai une mèche complètement tout croche. Bon, on va arranger ça vite, vite. Là, vas-y, mon beau Rémi.
Ben en gros, ce qui se passe, c'est que la ministre de l'enseignement supérieur, Pascale Derry, a décidé de repousser la date limite dans la session collégiale pour procéder, chez les, bon, je parle des étudiants, à un abandon des cours sans mention d'échec.
Voilà.
Donc, jusqu'à hier, c'était 20%. Et là, à partir de la session d'automne, les étudiants vont avoir jusqu'à 60% de leur session pour abandonner leur cours sans mention d'échec.
Bon, alors, tu vois, moi, j'espère que tu vas nous lire le passage dans le texte où on nous explique pourquoi? Puis là, on va voir qu'on s'adresse à des petits lapins. Les petits lapins sont fragiles. Ou si tu ne l'as pas, regarde,
non,
c'est écrit en jaune. Tu l'as ici?
Je pense que je l'ai. Ben, en tout cas, dans le communiqué, on dit que on veut que les étudiants puissent profiter d'une plus grande souplesse dans leur cheminement scolaire. Et on ajoute également que le caractère hâtif, et on va en discuter, OK, de la date limite d'abandon, actuellement établie à date fixe dans les 20% de la durée de la session, peut constituer un frein à la réussite et être une source de stress.
Ah, pas du stress! Alors, OK. Maxime, non, attends,
encore des
l'heure est grave. La dernière fois, tu nous as fait pleurer avec le sort des anglophones. Le Maxime, en white. Donc, retourne, prends du papier de toilette, prends des torchons, prends n'importe quoi. Il faut éponger les larmes qui nous viennent. Parce
qu'il sait qu'il faut qu'il aille pour vrai. La dernière fois, il pensait que c'était une blague, mais là, il est vraiment
un
parti
frein
chercher.
Oui, mais la dernière fois aussi, il est allé le chercher. Un frein à la réussite ou être une source de stress. Ben, je sais pas, moi, c'est sûr que mes années de cégep remontent à plus loin que toi. Mon cher Rémi, tu n'étais pas né, tu n'étais même pas dans l'esprit de tes parents quand j'étais au cégep. Le stress, ça fait partie des choses qu'on ressent.
Merci beaucoup, parce que ça risque d'être vraiment difficile de parler des étudiants du cégep.
Ah ouais.
Parce que ça fait partie. Pourquoi? Parce que le cégep, c'est juste avant que tu rentres dans la société civile. C'est ton dernier, c'est tes dernières années de En fait, ce sont des années de préparation à la jungle de la vie. Dans la jungle de la vie, là, quand tu t'engages dans quelque chose, ben, il faut que tu fournisses. Puis là, moi, je trouvais que c'était parfait, là, 20% de la session, il faut que tu décides quand même assez rapidement. Ouais. Puis si tu dépasses les délais, puis je me souviens la panique qui s'emparait de nous au cégep, quand on nous disait, ben là, ça ne te tente pas le cours, ou tu te rends compte que tu vas l'échouer le cours, ben tu as jusqu'à mercredi pour te retirer, sinon tu vas avoir un E, puis le E, ça va faire baisser ta maudite cote R.
En fait,
là, on
leur
donne
décision.
60%, tabarnouche.
Mais c'est 60%, là, c'est après la semaine dite de lecture, qui est une semaine de relâche dans un langage moins administratif. Ça veut dire que tu as au-delà de la semaine de lecture pour prendre cette décision-là. C'est complètement ridicule. Puis bon, regarde, il y a plein d'affaires. Effectivement, ça, c'est un bon point que tu viens d'apporter.
Oui.
On ne peut pas enseigner à des gens la nonchalance, une espèce d'extrême indulgence.
Absolument.
De manque de discernement, leur dire que vous n'êtes pas obligé de prendre une décision et ensuite exiger le tout à fait le contraire dans une société qui est compétitive et où, en fait, on fait quand même le tri entre les bons et les moins bons. Il y a ça. Mais il y a autre chose aussi. On nous dit le caractère hâtif. Regarde, toi, tu me dis que ça fait longtemps que tu as fait ton cégep. Moi, ça fait 10 ans à peu près. Et je m'excuse, là, mais on faisait avec, là.
Ben oui.
On faisait avec. Et là, on dit
vous
la société
pas
a changé.
Personne.
Mais la société n'a pas tant changé. C'est-à-dire que il parle de conciliation, travail, famille. Attendez une minute, on fait moins d'enfants qu'avant. Donc, normalement, il y a moins d'étudiantes mères ou d'étudiants pères, suivant la logique de travail. Les étudiants au cégep ont toujours travaillé dans mon temps, façon de parler, comme dans le tien et comme dans celui d'aujourd'hui, ce sont des faux arguments. Donc, caractère hâtif, je trouve ça injuste pour des gens qui se sont bottés le cul, en fait, là. Et qui arrivaient à 20% de la session et qui se disaient, ben, faut que je prenne une décision, en fait. Hein? Ça va faire partie de la vie, prendre des décisions. Est-ce que je suis capable ou est-ce que je suis pas capable? Et là, il y a un autre truc aussi. Elle est ministre de l'enseignement supérieur. Son travail, c'est pas de commander de la glu, puis des poupées, puis des couches, hein, puis des jus oasis, là.
Attends,
c'est
on a Pascale Derry sur la 1, là.
Qu'elle s'en vienne. Son travail, c'est de former des étudiants supérieurs. Hein?
Oui.
Et là, je suis tanné. Au Québec, le mot nivellement, là, on associe ça constamment au nivellement par le bas. Mais sais-tu quoi? On est capable de niveler par le haut.
Merci
aussi.
De le dire.
Et c'est quand la dernière fois qu'on a fait ça en éducation? Hein? Les étudiants ont droit à des ordinateurs aujourd'hui, peuvent faire l'école à la maison. à un moment donné, ça va prendre une mesure qui... Et j'espère que ça va venir de M. Drainville, parce que Mme Derry, en tout cas, elle n'est pas à la hauteur en ce moment.
Voilà. Alors, quand tu disais tout à l'heure que tout le monde est d'accord et que c'est suspicieux, c'est dangereux... Pas dangereux, mais c'est inquiétant quand tout le monde est d'accord, parce que ça indique peut-être que ça penche du mauvais bord. La Fédération étudiante collégiale du Québec, la FEC, qui représente 80 000 étudiants de 28 cégeps...
Qu'est-ce que tu penses? Les gens sont d'accord, évidemment.
Ben, évidemment. Donc, ils sont tout à fait d'accord, parce qu'on va avoir, les étudiants vont avoir plus de temps pour analyser leur situation et prendre les bonnes décisions en faveur de leur réussite scolaire. Ça c'est la ministre qui dit, le ministère qui dit ça. Ben, c'est évident, parce que rendu à 60% du cours, tu le sais si tu t'en vas vers un échec. Ben là, t'as juste dit, oh ben finalement, sais-tu quoi, maman, papa, c'était pas ça que j'aurais dû faire. Je vais juste me retirer du cours. C'est comme un coitus interruptus, un étudus interruptus, pour parler comme un... Ben là...
Tu sors ton beau latin. Écoute, à leur défense, on va être de bonne foi. Ce qu'ils disent, en fait, c'est que à 20%, souvent, dans le parcours d'un étudiant collégial, il n'y a pas encore eu une évaluation qui était prévu au programme. Donc, il ne sait pas, en fait, s'il est en voie ou pas en voie de réussir.
Oui, mais passer de 20 à 60.
Mais voilà. Tu passes de 20 à 35, de 20 à 40.
Mais là, après la première évaluation, pour qu'en effet, tu saches si... Puis de toute façon, ça ne veut strictement rien dire. Parce que ta première évaluation, peut-être que le prof a été particulièrement exigeant, ce premier examen-là, puis qu'après, tu vas pouvoir très bien te débrouiller. Ou le contraire, que le prof a été super plus conciliant, puis que la matière était plus facile dans le premier examen. C'est juste qu'on n'apprend pas la notion d'acharnement, de persévérance, donc, alors c'est juste, tu peux laisser traîner ça. 60%, excuse-moi de faire le calcul, là, mais c'est juste 40% du temps avant la fin de la session, tu peux dire...
C'est 2 mois et demi. Ils ont calculé que sur une session de 82 jours, c'est à peu près 2 mois et demi. Ça veut dire que littéralement...
2 mois et demi, c'est long!
Mais c'est énorme, mais oui, c'est extrêmement long.
Alors, c'est juste, tu sais quoi? Vas-y. Il y a deux mots que les élèves, que les enfants, que les étudiants, que les jeunes Québécois n'entendent pas assez souvent. Le premier mot, c'est le mot « non ». Et le deuxième mot, c'est le mot « échec ». C'est un échec. T'as essayé de faire ça, t'as essayé de faire un collier avec des morceaux de macaroni, c'est laid.
C'est un échec.
Non, mais
ne fais plus jamais ça.
Et non, ne fais... Ah, ben, c'est pas grave, j'en ai une quantité, mais ils sont tous magnifiques.
Mais c'est-tu quoi? T'as tellement raison, Sophie. C'est qu'en réalité, on veut diplômer le plus de gens possible.
Oui.
Et ça devrait pas être le mandat du ministère de l'Enseignement supérieur. Ça devrait être de diplômer les meilleurs candidats. Et là, on vit dans une société au Québec où il y a une pénurie de main-d'œuvre dans plein de secteurs d'activité et où on diplôme des centaines et des centaines et des centaines de personnes en art et spectacle, en histoire. Écoute, moi, il y a quelques années, j'ai été engagé pour faire un mandat de recherche dans le département d'histoire de l'UQAM et je me suis rendu compte que c'était le département avec le plus d'étudiants au Québec en histoire. Est-ce qu'on est obligé d'avoir autant d'étudiants en histoire? Non. Probablement qu'ils devraient en avoir moins. Probablement
le contingenté comme ça.
On devrait avoir moins d'étudiants et peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas destinés à ça. Je veux bien, mais c'est très rare que... Regarde, il manque pas de professeurs d'histoire au secondaire. Mmh. Je le sais. Il manque pas de professeurs d'histoire au secondaire, donc on forme beaucoup, beaucoup d'étudiants en histoire pour rien, alors que ces gens-là, peut-être qu'ils sont pas à leur place à l'école et devraient faire autre chose.
Ouais.
Mais ça, c'est vraiment...
Ben, je trouve ça un petit peu une mesure passe-partout. Donc, répétons ensemble, en regardant la caméra, les deux mots-clés de la journée à l'émission Passe-partout aujourd'hui. Non.
Et échec.
Échec. Et non.
Et non.
Échec et maths. Merci beaucoup.
Bye-bye.
Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure.
Alors, il y a une chronique qui fait beaucoup, 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 beaucoup jaser. C'est la chronique de notre collègue Francis Gosselin, qui est chroniqueur ici à CUBE, mais qui est aussi chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Il a écrit une chronique sur le pourboire, puis ça t'a fait réagir, Jean-François Barry. Bonjour.
Hey, salut. Ben, le pourboire, je pense que ça fait réagir tout le monde présentement, parce qu'il y a énormément d'abus et d'excès. Là, on s'entend?
Franchement, moi, ça m'écœure. Quand tu arrives et qu'ils te donnent le terminal, puis que c'est marqué 15%, 18%, 20, 22%, ça m'énerve. Alors, ce que je fais, c'est je fais pour le personnaliser, et puis là, je le donne selon mon appréciation à moi de la performance de la personne, hein, du serveur.
Mais ça devrait pas être.
Francis est là, on le salue. Bonjour Francis. Hey,
Francis, j'adore.
Ben oui, on l'adore.
Francis que j'adore.
On n'est pas obligé d'être d'accord.
Mais cette fois-là, je ne suis pas en accord avec lui parce que lui dit qu'on devrait l'enlever, le pourboire.
Viens, rentre en studio, Francis. Il va pouvoir répondre à tes arguments, ça va être drôle. On va faire ça comme
mesure ça. Mesure qui est là depuis 1937, c'est ce qu'il nous apprend dans son article qui est brillamment écrit.
C'est sûr, tu dis ça parce qu'il est là.
Avec une recherche exhaustive, comme Francis est habitué de le faire.
Résume. Attends, juste deux secondes, Jean-François. On va laisser Francis résumer, mettons, en 10 secondes, ton argument. Puis après, Jean-François, tu vas répondre à pourquoi tu n'es pas d'accord.
En fait, il existe un salaire différencié au Québec pour le pourboire depuis les années 1930. Puis la raison, c'est qu'on voulait payer les gens qui recevaient un pourboire moins cher que les gens qui n'en recevaient pas. Et donc, ultimement, c'était pour un peu faire plaisir au patron. Et donc, 100 ans plus tard, on a encore ce régime-là, mais la question, c'est est-ce que quand on donne un pourboire, on n'est pas en train de, finalement de payer ce que l'employeur devrait payer ultimement?
D'accord. Et donc toi, tu proposes l'abolition du pourboire.
Payons les gens au restaurant 25 $ de l'heure au lieu de les payer 12 avec du pourboire. Tu comprends? C'est un peu l'argument
d'accord.
que je fais.
Alors, Jean-François, la parole est à vous, Jean-François.
Oui, bien, en fait, moi, mon point, Francis, c'est que si jamais le restaurateur qui n'ont pas des... Il y a des restaurants qui vont très bien, mais la majorité des restaurateurs n'ont pas des marges de profit exorbitantes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben mon saumon à 24 $, ils vont me le vendre 30 $. Fait que, en bout de ligne, ça va revenir exactement à la même affaire.
Exact.
Vous êtes d'accord?
Donc, un dans l'autre, on est aussi bien de laisser le pourboire dans ce cas-là, parce que je pense que c'est plus rentable pour les serveurs et serveuses de profession. Parce qu'on oublie, parce qu'on a souvent tendance à voir le petit gars, la petite fille qui nous sert, là, qui nous apporte notre club sandwich puis notre coke, puis là, on est obligé de donner un gros pourboire alors qu'elle n'a pas vraiment fait un grand service. Elle est venue nous porter nos affaires. À la serveuse et aux serveurs de profession qui font ça. Moi, j'ai un ami, là, il va faire ça toute sa vie, 35, 40 ans.
C'est un très beau métier.
C'est son métier. Il a peut-être fait, depuis que je le connais, 5 ou 6 restos, des bons restos, des endroits où tu t'assois pendant 1h30, 2h, puis il vient te servir régulièrement. Puis lui, il a pas de fonds de pension, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de lunettes, de plan dentaire, tout ça. Donc, on veut qu'il en fasse des sous. C'est vrai qu'il fait des beaux pourboires, c'est vrai qu'il est bien rémunéré. Mais je veux qu'il en fasse, parce que mon ami travaille debout, c'est quand même exigeant, fait que je veux pas qu'il se retrouve à 60 ans avec rien en avant de lui. Donc, c'est normal qu'on les paie bien, nos serveurs et serveuses.
On va faire un débat à trois. vous le savez, je suis née en France, puis c'est...
Il n'y a pas de pourboire, vraiment.
Le pourboire en France est pourboire. C'est-à-dire que c'est... Je vais au restaurant. Quand c'est marqué, ça coûte 40 €. Quand la facture arrive, c'est 40 €. Et si toi, tu trouves que le serveur a fait quelque chose de qui sort de l'ordinaire, qui a été sympathique, qui a été allé te chercher un plat qu'il n'y avait pas, là, tu lui donnes 5 €, 2 €, 10 €, tu lui donnes ce que tu veux, mais le pourboire reste ce qu'il est, c'est-à-dire un reflet de l'appréciation du service. Et si tu trouves que le service est pourri, tu le dis au gars, tu dis « je te laisse rien, parce que ton service était pourri », alors qu'on n'a pas ce loisir-là au Québec.
Mais c'est ce que je t'écrivais aujourd'hui. On devrait revenir à ça. La notion du pourboire est encore bonne. C'est juste que présentement, on en donne partout, pour tout, puis pour rien. On va se chercher une crème glacée, on laisse du pourboire. Le pourboire, il est devenu... Puis là, on se sent mal. Puis là, on reçoit le terminal. Puis là, tu m'as dit tantôt, c'était écrit 15%, mais des fois, ça part à 18% maintenant.
Ouais,
là, tu te sens mal. En plus de ça, imagine quand t'es une personnalité connue, tu te sens doublement mal de faire « ben non,
ben
moi,
quoi,
je vais
quand
personnaliser
t'es...
mon
ben
affaire. »
Mais toi, t'es plus connu que moi, fait que tu dois te sentir doublement mal. Francis, j'ai une question pour toi. OK. Est-ce que t'es comme nous? Parce que j'imagine, je pense qu'on a déjà parlé avec Jean-François, il y a une chose qui m'écarte. OK? C'est quand tu vas au restaurant et que tu prends une bouteille de vin. La bouteille de vin est là. OK? Puis là, t'as le serveur qui arrive. Puis là, il met sa petite
son linteau blanc.
Son petit linteau, là. Puis là, il arrive. Puis là, il prend, puis il te sert. Puis là, il te sert. Hey, chose! Je suis capable de prendre la bouteille de me servir moi-même. Sais-tu quoi? Je vais me le servir exactement quand moi je veux. Et là, parce qu'il a fait ça, qu'il a pris la bouteille, qu'il a versée dans mon verre, que moi, je suis parfaitement capable de faire moi-même, merci. Là, je suis obligée de lui payer du pourboire sur la bouteille de vin. Ça t'écœure pas, toi, Jean-François?
Mais moi, je pense qu'il fait ça plus pour que tu en reprennes une deuxième. Parce que il s'assure que ton verre est jamais vide. Fait que là, tu perds le jugement.
C'est certainement une stratégie commerciale.
Puis là, tu le trouves beau garçon, ce serveur-là. Puis là, finalement, tu lui laisses bien plus de pourboire.
Je veux juste
vite, vite.
Ben, je veux juste, ben, là-dessus, vous avez. Ben, Jean-François a raison. Je pense que la stratégie, c'est d'en vendre davantage. Je veux juste revenir à un truc qu'il a dit. Ouais. Pour moi, l'idée d'enlever le pourboire, là, contrairement à Jean-François, ce que tu disais, c'est pas d'appauvrir les serveurs. Là. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'en fait, qu'on remplace la portion pourboire à la discrétion du client par de la rémunération qui est plus juste pour le travail qui est fait. Donc, l'ami là, qu'évoquait Jean-François, je pense qu'il devrait gagner un plein salaire au lieu de dépendre de la bienveillance. Et surtout que depuis les années 80, les pourboires, ils sont fiscalisés. Il faut payer de l'impôt
mais
dessus.
Oui.
Mais saviez-vous que de 1937 à 87, c'était comme un genre de marché noir toléré. On recevait du pourboire puis on le déclarait pas, ce qui est une drôle de situation. Mais encore une fois, donc moi, ce que je dis, puis Jean-François, tu disais ça, l'exemple que tu donnais, moi, je serais partant, comme en France, tu l'as dit, Sophie, que le prix affiché pour mon steak, que ce soit 30$, puis quand je sors du resto, tu sais quoi? Ça a coûté 30$ et pas plus la taxe, plus le 18 ou le 22 ou le pourcent de pourboire, que ce soit le prix qui est affiché, qui est le prix qu'on paye. Puis j'ai habité moi aussi 5 ans en France, Sophie. Comme tu le dis, ça coûte 40€, tu laisses 1 euro, 2 euros, c'est une appréciation symbolique. Mais cette espèce d'obsession qu'on a au Québec, puis là maintenant pour des crèmes glacées, même, je suis allé récemment prendre un café là, à un comptoir. T'sais. On donne pas du pourboire au McDonald's, à ce que je sache.
Ben non.
Ben pourquoi on en donnerait au café qui est essentiellement la même prestation?
Tout à fait
parce
raison.
Que le terminal nous
Très bon
l'impose.
Point.
Moi, c'est un peu ce que j'évoquais dans l'article aujourd'hui, qui apparemment a fait beaucoup réagir.
Ben oui, c'est pour ça que je voulais que tu te défendes. Ouais.
Francis, ça, je suis d'accord avec toi. Là. Tu vas dans n'importe quel petit café.
Non, c'est rendu ridicule.
Ça, les cafés, tu prends un café et un muffin à cette heure, ça te coûte 12,50. Là.
Ben oui.
Puis là, fait que là, tu fais, là, faut que tu ajoutes logiquement le 15% de pourboire. Tu fais, hey, t'as pris le muffin dans le comptoir, puis tu me l'as mis devant moi. Là. Je te donnerai pas 5$ pour avoir fait ça.
Ouais.
Fait que je pense que c'est plus là qu'il faut revoir la patente. Là.
Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a un ras-le-bol face au pourboire. Je pense que les gens sont vraiment écœuré. Et le fait que, tu as tout à fait raison, t'en parlais dans ton texte aussi, Francis, mais le fait que le terminal nous suggère quelque chose qui nous paraît complètement disproportionné, hey, 22 puis 23%, toi, ça n'a aucun sens. Ça veut dire que, mettons, sur une facture de 100$, on verserait un pourboire qui serait le quart de ce qu'on a payé.
C'est complètement fou.
Ça n'a aucun sens.
Et peut-être une petite remarque là, en finissant, mais il y a un truc aussi, une pratique qui Québec, que je pense devrait quasiment légiférer, mais aujourd'hui, le 18% ou le 15% qu'on voit, souvent, il est ajouté au total.
Aux taxes.
Et donc, en principe, là, selon ma compréhension de la règle, de la norme, le 15%, il est sur le total avant taxe. C'est pas normal de donner 15 ou 18 ou 20% sur un total, sur les taxes, en fait. Donc là-dessus, je pense qu'il y a peut-être un petit peu d'encadrement là, à prévoir dans les prochaines années.
Il faut, ça, c'est sûr qu'il faut revoir la façon de faire, il faut la réglementer parce qu'on se fait avoir. Mais je vais juste terminer, moi, en vous dire que ma fille travaille dans un restaurant présentement.
Oui. Elle paye combien
arrive,
de l'heure?
Je t'en vais. Ben, le salaire d'une serveuse, là, mais
12
mon point, c'est juste que je suis en veille de faire une série avec ce qu'elle me raconte. Vous n'avez pas idée, Sophie, toi, dans ta grande patience, je te dis, tu ne fais pas une soirée comme serveuse. Les clients, les demandes...
C'est quoi cette accusation-là?
Les demandes des clients, les commentaires des clients,
Excuse-toi, Jean-François Barry, qu'est-ce
capoté.
Que tu viens de dire?
Il est en train de dire que
tu n'as
pas la couenne dure, Sophie, je pense. Là. C'est un défi.
Tu parais dans le visage assez vite.
Sortez-la d'ici, quelqu'un.
Ça paraîtrait assez vite dans ton visage.
Ah, c'est ça! J'irais travailler comme serveuse dans un restaurant, puis au bout de 5 minutes, je dirais, sortez-moi d'ici!
Oui, les gens diraient, on va le prendre pour apporter, finalement.
Mais tu nous raconteras ça dans une prochaine chronique, tu nous raconteras les vices et les turpitudes de la vie d'une serveuse dans un restaurant. C'était pas prévu. Est-ce qu'il va falloir te payer un pourboire
chronique? Non, ça va. Je le fais pro bono aujourd'hui, exceptionnellement, parce que c'est Jean-François Barry qui m'accuse.
Moi, je vais le prendre, le pourboire.
Bah, c'est toi qui t'es initié, t'es venu mettre ton nez dans mon émission en me narguant de la régie. Là.
Ça, c'est mon terminal, Sophie, pour ceux qui nous écoutent en vidéo.
Oui, c'est ça, moi aussi.
Je peux passer ta carte là-dessus.
Ça commence à 18%, moi. Hey, merci beaucoup, les amis. C'était très sympa. Merci, Francis Gosselin.
Bonne
merci,
journée.
Jean-François Barry. Très sympa.
Bye.
Elle est parfois dramatique. D'autres fois, satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie.
Sophie Durocher.
Bon, écoutez, c'est absolument dévastateur, une histoire vraiment qui brise le cœur, qui fait la une du Journal de Montréal ce matin. 17 heures d'attente fatale, l'histoire de France Boisclair qui est décédée après avoir été retrouvée dans une toilette du centre hospitalier régional de Lanaudière à Joliette. Donc, 17 heures d'attente, un mauvais code, en fait. On lui a donné un code comme quoi c'était pas son cas n'était pas grave. Elle n'a pas été vue par un médecin. Elle est décédée. On va parler tout ça avec Pierre Blain, qui est PDG des usagers de la santé du Québec. Monsieur Blain, bonjour.
Oui, bonjour, Madame Durocher.
Comment avez-vous réagi quand vous avez entendu parler de l'histoire de France Boisclair dans le Journal de Montréal ce matin?
Encore une fois, malheureusement, avec beaucoup de tristesse, parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive. On dirait que depuis quelques années, on en entend parler plus souvent. Mm-hmm. À la télé et à la radio, alors que cette situation-là perdure depuis des années. Alors, moi, je me souviens de cas qui sont arrivés à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, déjà dans le milieu des années 2010-2012. Alors, c'est continuel. Et malheureusement, le ministre Dubé est toujours en train de nous parler de son tableau de bord. Mais il y en a un tableau de bord qui existe depuis des années et qui nous dit qu'il y a plus de personnes qui meurent dans le réseau de la santé qu'il y en a sur les routes au Québec. Donc, il devrait leur garder son tableau de bord concernant ça. Et là, il pourrait voir, peut-être il pourrait y avoir des améliorations à faire.
Voilà. Alors, cette histoire est absolument terrible. Elle est racontée donc par la sœur de France Boisclair. Est-ce qu'on peut imaginer la détresse de quelqu'un qui se présente à l'hôpital avec une condition physique inquiétante et qui se fait dire, bon, bah, petit code 4, là, allez donc attendre, là, c'est pas grave. Et on nous dit que la raison pour laquelle aucun médecin est allé la voir pendant 17 heures, c'est que l'urgence était débordée. Mais ça fait combien d'années qu'on nous dit qu'on va régler ce problème-là des urgences débordées? Monsieur Blain, à un moment donné, la population est comme tannée d'attendre.
Vous avez raison. Et ça fait des années. Et c'est encore pire depuis que, malheureusement, ce gouvernement est arrivé. Les heures d'attente à l'urgence ont augmenté. Mais moi, dans le cas qui nous préoccupe actuellement, oui, je suis en train de me poser la question s'il n'y a pas un peu d'âgisme.
Mon Dieu, je suis contente de vous l'entendre dire.
Ouais. Exactement. Qu'est-ce que vous voulez? Une madame de cet âge-là, elle n'a rien d'autre à faire. Pourquoi qu'elle vienne nous embêter? En plus, c'est une femme. C'est un petit bobo de femme. Alors, moi, j'ai l'impression que ça doit faire partie de ce qu'il faut qu'on regarde également.
D'accord. Écoutez, on peut pas présumer, évidemment, parce que ben, les personnes au triage sont elles-mêmes très souvent des femmes. Donc, est-ce qu'il y a vraiment cette opinion-là? On veut pas non plus prêter des intentions au centre hospitalier régional de Lanaudière à Joliette. Mais c'est vrai que... quand on regarde l'âge de la dame, on se dit c'est possible que elle n'ait pas été prise au sérieux. Quand même 17 heures d'attente, c'est quand même inquiétant. Vous êtes président directeur général donc des usagers de la santé du Québec. Quel genre de pouvoir vous avez? Autrement dit, on connaît bon évidemment le lobbying qui se fait bon des gens des compagnies pharmaceutiques ou des trucs bon des acteurs dans la société font du lobbying auprès du gouvernement. Vous représentez les usagers de la santé. Vous diriez que votre force de négociation, là, votre pouvoir dans la balance, il est quoi, M. Blain?
À peu près nul. Sauf que le seul pouvoir que nous avons, c'est vous, Mme Durocher, qui pouvez nous le donner en publicisant, en parlant de situations inacceptables, semblables. Mmh. Et il faut qu'on en parle et qu'on le mette continuellement en évidence que notre système de santé se porte mal, qu'on n'a pas accès à un médecin de médecin de famille et que quand on va à l'urgence, on n'est pas pris au sérieux. Cependant, moi, je vais vous donner un exemple. Quand on parle de sexisme et d'âgisme, moi, ça m'est arrivé il y a deux ans, justement, d'avoir eu un problème et de me présenter. J'ai attendu une heure, mais moi, on m'a pris au sérieux. Pourtant, j'ai l'impression que j'avais exactement les mêmes conditions que madame avait. Et après une heure d'attente, on m'a fait passer immédiatement un examen. Et tout de suite après, c'était le branle-bas de combat et on m'a amené immédiatement en salle d'opération. Donc, moi, je pense que dans ce cas-là, et le coroner en parle aussi, mauvaise formation peut-être des personnes au triage.
Voilà, on parle d'une meilleure formation des préposés qui sont responsables justement du triage. Et ce sont eux, ben c'est la porte d'entrée évidemment dans le système, ce sont eux qui décident, ben vous êtes un code 1, code 2, code 3, enfin bon, je connais pas évidemment tous les termes, mais c'est eux qui, ce sont eux qui jugent de la gravité de votre situation. Puis c'est toujours, bon... là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. L'erreur est humaine et ça se peut une mauvaise évaluation basée sur les symptômes qu'on constate chez la personne. Après, il s'agit quand même de voir. Mais vous savez, je vous écoute parler, Monsieur Blin, puis je me dis, ben moi je suis peut-être un petit peu plus jeune que vous, mais je me dis, moi là, ça fait, mettons que depuis que j'ai l'âge de 18 ans, je paye des impôts. Mettons que si je m'assoyais à un moment donné là, puis que je calculais combien j'ai payé d'impôts en année depuis que j'ai 18 ans, j'en ai 58 maintenant, ça fait 40 ans que je paye des impôts. Je me disais, ben avec tout cet argent-là que j'ai donné au gouvernement, demain matin, là, il m'arrive quelque chose, je me présente dans le système de santé. Comment ça se fait que j'en ai pas pour mon argent? J'ai un ami qui est médecin qui n'a pas de médecin de famille. J'ai un ami qui est médecin.
Barrette, t'en as pas.
Et qu'il n'y a pas de médecin de famille. Je veux dire, c'est quoi ce système-là? On paye pour quoi, M. Blin? On n'en a pas pour notre argent.
On paye malheureusement pour la bureaucratie puis des belles bebelles qu'on va avoir qui vont s'appeler Santé Québec puis qu'on va payer un PDG 600 000 $ par année. On va payer pour des maisons des aînés qui sont vides puis qui nous coûtent plus cher que ce que ça coûte aussi même pour des personnes battues. Alors, c'est ça qui est présentement l'aberration. Il faut qu'on revienne à la base, offrir à chaque Québécois un service rapide pour avoir accès à un médecin qui est capable de nous traiter rapidement. C'est ça la base. Il n'y a pas beaucoup d'autres façons que de revenir à ça. Et malheureusement, les structures en place actuellement, et je veux pas blâmer trop, mais je veux dire, Joliette n'est pas un hôpital exemplaire. Bon. Vous le savez, n'est-ce pas?
On se souvient de ce qui s'est passé Joliette avec Joss Echaquan, évidemment. Voilà. Mais faisons pas de lien pour l'instant, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler aujourd'hui. Pierre Blin, je rappelle que vous êtes président directeur général des usagers de la santé du Québec. Je pense qu'à la notion d'agisme, en tout cas, il faut fortement y réfléchir. Merci beaucoup, Monsieur Blin.
Merci. Au revoir.
Elle se déplace du côté court au côté jardin, pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre,
Sophie Durocher.
On entend souvent parler depuis quelques mois maintenant de l'émission Canada's Got Talent, donc cette émission de talent qui couvre des artistes vraiment qui viennent de partout à travers le Canada. Pourquoi? Ben parce qu'il y a plusieurs Québécois qui sont illustrés. On pense évidemment à Jannick Fournier, aussi à la dame qui fait des imitations là de Western. Mais là, on en entend parler parce que c'est le duo Matt et Mime qui a remporté le fameux Golden Buzzer cette semaine. On va parler donc avec Mathieu Cloutier et Myriam Lessard. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Vous êtes où, là, les amis?
On est à Tampa Bay, en Floride, en ce moment.
Ben là, je suis jalouse. Est-ce que vous êtes à Tampa Bay parce que vous êtes dans le spectacle du Cirque du Soleil Bazar, c'est pour ça?
Exact, oui. On est en tournée présentement à Tampa Bay, en Floride.
Ah, formidable. Ben écoutez, vous êtes absolument extraordinaire. Votre numéro que vous avez présenté à Canada's Got Talent, on vous voit tous les deux en train de tournoyer sur vos patins à roulettes. Et ce qui a épaté les juges de Canada's Got Talent, c'est à quel point ce numéro-là est dangereux et risqué. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu peur tous les deux?
Ben, je veux dire, peur, non, c'est du risque contrôlé. Oui, c'est dangereux, mais on s'entraîne beaucoup pour ça. La seule chose qui était complètement différente de ce numéro-là en particulier, c'est que la plateforme a fait 2 mètres de haut. Normalement, on travaille pas sur une plateforme si haute que ça, mais comme c'est un gros concours de talent, il y a beaucoup de talent. On a pris un risque avec ça, mais c'est calculé.
D'accord. Donc, en temps normal, vous l'auriez fait peut-être sur une plateforme plus basse, mais pour vous distinguer des autres candidats, vous avez choisi de rajouter un petit côté de risque, si je comprends bien.
Exactement.
On voulait frapper fort en commençant pour la première audition, donc c'est pour ça qu'on est allé avec la plateforme très, très haute.
Normalement, notre plateforme est 50 cm de haut. Puis avec ce numéro-là aussi, le dernier truc du numéro où je l'attache par les cheveux, on oui. est pas mal dans les seuls au monde pour faire ça présentement.
Voilà. Alors moi, là, j'avoue que quand je vous ai vu, Mathieu, accrocher vraiment Myriam par les cheveux puis la faire tournoyer, parce que vous, Myriam, vous tournez autour de Mathieu et vous tournez sur vous-même. Donc, vous êtes un peu comme la Lune par rapport à la Terre, là. Mais c'est complètement délirant. J'ai juste une question de fille pour vous. Ça fait-tu mal?
Mais c'est sûr que oui, ça fait mal. Tout le monde s'est déjà fait tirer par les cheveux. C'est sûr que c'est pas agréable. Mais c'est une sensation qu'on apprend à maîtriser, à contrôler. Moi, ça fait plusieurs années que je fais de la suspension capillaire. Maintenant, je le performe aussi en numéro. J'ai un solo. Donc, c'est quelque chose que j'ai travaillé depuis plusieurs années puis qu'on avait toujours voulu intégrer dans notre numéro de patin à roulettes. Puis on s'est dit que Canada's Got Talent, c'était l'opportunité justement pour le mettre en spectacle.
Alors, je veux juste bien comprendre parce que, donc, vous avez participé à Canada's Got Talent, mais vous aviez aussi auparavant, au cours des ans, participé à différents concours de ce type-là, mais à l'extérieur, en Europe ou ailleurs. Pourquoi c'était une nervosité, disons, supplémentaire, le fait que ce soit au Canada, donc dans votre pays d'origine?
Ben, c'est exactement ça la raison. On n'a pas beaucoup d'opportunités de pouvoir performer chez nous, devant nos familles, devant des gens qui nous connaissent. On est Canadiens. C'est une belle opportunité, puis ça rend la chose un peu plus stressante, voilà, que tout le monde va nous regarder.
C'est ça, parce que quand vous faites, mettons, une émission en Europe, ben là, vos cousins puis la personne, le dépanneur à côté, ils peuvent pas vous voir. Alors que là, ben tout le monde peut se rendre compte à quel point vous prenez des risques. Dans quelle mesure ce numéro-là que vous faites est très différent de ce que vous faites pour le spectacle du Cirque du Soleil? Parce que Bazar, on l'a pas vu encore. C'est un spectacle du Cirque du Soleil qui a été créé en Inde. C'est la première fois qu'il y avait un spectacle du Cirque du Soleil qui a été créé en Inde. Là, vous êtes manifestement donc aux États-Unis, mais qu'est-ce que vous faites à l'intérieur de Bazar du Cirque du Soleil?
On fait du patin à roulettes. C'est pour ça qu'on est engagé, c'est notre spécialité. Sur Bazar, c'est un numéro de presque 5 minutes qu'on fait. Donc, il y a certains mouvements qu'on a présentés à Canada's Got Talent qu'on fait dans notre routine sur Bazar, mais il y avait quand même des exclusivités pour Canada's
D'accord.
Got Talent.
D'accord. Et donc, c'est important de mentionner, dans la vie, vous êtes un couple?
Oui.
Est-ce que vous accepteriez de vous faire tirer les cheveux par un gars si ce gars-là, c'était pas votre chum, Myriam? Sérieusement, entre vous et moi, là, hey, te pogne par les cheveux, puis ouais, tourne autour, puis tourne sur toi-même. Si c'était pas votre chum, là, est-ce que vous auriez autant confiance en lui?
Ah, j'ai réfléchi à deux fois, ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'on travaille bien ensemble.
Oui. Alors, le fait d'avoir le Golden Buzzer, pour ceux qui connaissent peut-être moins Canada's Got Talent, c'est que ça vous fait passer automatiquement à l'étape suivante. Est-ce que, bon, évidemment, vous pouvez pas nous le dire parce que ça a déjà été enregistré. Enfin, il y a quand même tout un processus. Mais le fait d'avoir le Golden Buzzer, quand vous l'avez entendu, quand vous l'avez ressenti, ça a été quoi votre réaction? Mettons, on va commencer par Mathieu puis Myriam après.
C'est dur à décrire, tu sais.
Ouais.
On a tous vu sur YouTube à un moment une vidéo de quelqu'un qui recevait un Golden Buzzer, puis tu fais « Ah, ça doit être génial, la pluie de confettis, les émotions, tu fais tout. » Puis une fois que c'est là, puis c'est à toi que ça arrive, c'est dur à décrire. Là. C'est comme plein de choses qui arrivent en même temps.
C'est tellement intense. Ouais. Puis c'est sûr qu'au fond de nous, c'était un peu un souhait qu'on avait. Mais il y a tellement jamais rien de garanti, puis on ne sait pas ce qui va plaire au juge non plus. Mais quand on a vu Cardinal Official se lever, puis on s'est dit, oui. Oh, je pense qu'il va vraiment pour le Golden Buzzer. Puis là, il a appuyé sur le bouton. C'était vraiment extraordinaire. Là, les confettis, la foule qui était en délire, c'était vraiment, c'est vraiment un moment hors du temps. Là.
Ouais. C'est, ah. Ouais, c'est irréel.
Ben, pourtant, c'était bien réel. Écoutez, félicitations. J'ai envie de dire Québec's Got Talent parce que vous êtes des fiers Québécois. Ça a été vraiment un plaisir de vous parler. Je vous souhaite bonne chance pour la suite des choses. Donc, deux choses qu'on a hâte de voir. On a hâte de voir, évidemment, comment va se passer la suite des choses à Canada's Got Talent. Puis, on a hâte, en mot à dit, de voir Bazar, le dernier, donc, ce spectacle-là du Cirque du Soleil. Est-ce que vous savez quand est-ce que ça va être présenté au Québec?
Non, pas encore. Pour l'instant, on n'a pas de date encore au Canada, Québec, mais on aimerait vraiment ça l'apporter.
Absolument. Donc, merci beaucoup. Donc, Mathieu Cloutier, Myriam Lessard, mieux connu sous le nom du duo Matt and Mim. Vraiment, félicitations, vous avez plein de talent.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Sophie Durocher.
Un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
Hier soir, j'étais à la TAHU, vous savez, la Cité des arts du cirque à Montréal, mais j'allais pas vraiment voir un spectacle de cirque. J'allais comme voir un spectacle de lutte qui est aussi un spectacle de cirque. C'était la nouvelle création d'Ex Machina et de Flip Fabric, donc ça s'appelle Slam. Et je vous recommande à tout le monde d'aller voir ça, j'ai adoré ça. Et en fait, ce sont des artisans de cirque, mais qui font comme s'ils faisaient de la lutte. Et j'ai adoré ça, puis je me suis dit, ben, j'aurais peut-être envie d'aller voir ça, un spectacle de lutte. C'est de ça qu'on parle avec Cybèle Olivier, qui est journaliste à la recherche. Bonjour, Cybèle.
Allô, Sophie. T'as aimé ça?
J'ai adoré.
Je suis jamais allée voir de la lutte, mais on sent que cette espèce d'engouement-là autour de la lutte, là, tu parles de slam, mais moi, je suis venue te présenter deux autres nouvelles culturelles en lien avec ça, parce que, tu sais, la lutte, ça a été boudé quand même pendant un certain temps au niveau culturel. On disait pas vraiment un art. Il y avait un peu de snobisme. On trouvait ça peut-être un peu
normal. Un peu grossier. Avec le gars des vues, là.
Ouais, mais quand même, ce n'est que du théâtre, finalement. Ben, tu l'as vu dans le cirque, mais c'est un théâtre de l'extrême quand même.
Absolument.
Et là, tu me parles de slam. On est à côté aujourd'hui. Moi, je te parle de deux exemples. En premier, une exposition. Ex Machina, encore une fois, mais cette fois avec Robert Lepage. Lui, je te le cite, il dit « La lutte, c'est le dernier rempart du vrai théâtre. Hein, on criait, on aimait, on détestait. Le public faisait partie du spectacle dans l'ancien théâtre. Mais la lutte, c'est encore ça. »
C'est très vrai.
Alors lui, dans une nouvelle exposition également qui s'appelle « Lutte, le Québec dans l'arène », c'est au Musée de la civilisation de Québec. Et vraiment, tout ce qu'il y a à savoir sur la lutte ou tous les petits éléments, autant visuels que dans l'histoire, sont présentés par Robert Lepage là-bas.
Je ne l'ai pas vu parce que quand je suis allée à Québec la semaine dernière, l'exposition ne commençait pas encore.
C'était cette semaine.
Je suis certaine que c'est meilleur que Unique en son genre, qui est vraiment une exposition absolument épouvantable présentée au musée. Je te laisse continuer. C'était ma minute éditoriale.
Alors, celle-ci a l'air extraordinaire, Sophie. C'est pour ça que je la présente. Mais elle a vraiment intéressante. Puis on voit aussi, tu sais, comment cet art-là remplissait le forum, remplissait le Colisée de Québec. Hey. Tu sais, après le hockey, il y avait la lutte où il était, certains diront que c'était peut-être, ça se battait pour la première place. Ouais. Ouais, c'est ça. Et tu sais, on parle aussi des grands lutteurs qui ont été, des fiers Québécois représentants à l'étranger.
Tu sais, avant les
Puis tu sais, on parle de Louis Cyr aussi, tu sais, qu'on connaît clairement. On va mettre des images si vous ne souvenez pas de son visage. Et aussi les frères Baillargeon. Ça, je ne les connaissais pas, les frères Baillargeon. Regarde bien ça. C'est six gars, six frères, là, super musclés. Puis eux, encore une fois, tu sais, on parle des mythes, on parle des légendes autour de la force de ces gens-là. Eux, on disait qu'ils étaient capables de tirer des autobus avec leurs dents, capables de soulever un cheval avec leurs mains. Tu sais, tous ces hommes forts-là, ben Robert Lepage et Ex Machina en font l'illustration dans l'exposition. Il y a aussi Maurice Mad Dog Vachon. Ouais. Lui aussi, c'était une grosse vedette, années 60-70. Donc, tous ces gens-là sont répertoriés. Avec le petit côté techno d'Ex Machina, t'as dû le voir, toi, dans Slam, j'imagine.
Hier soir, c'est fabuleux.
L'immersion, les miroirs, les projections. Et à un certain moment dans l'exposition, on est aussi transporté dans l'atelier de Tony Lanza, qui était un grand photographe de lutteurs, un Montréalais, qui prenait en photo tous les lutteurs. Et à un moment, tu peux te retrouver à l'intérieur de son studio de photographie avec les photos 3D qui sortent un peu alentour de toi. Donc, c'est très visuel. Et tu sais, quelqu'un qui s'intéresse pas plus que ça à la lutte va quand même être plongé dans un art de la scène. Donc, ça a l'air très intéressant. Et voilà ce qui conclut peut-être là, cette exposition-là pour mon premier exemple de scène culturelle.
Exemple. Et le deuxième?
Ben, t'en veux-tu de la femme forte? En v'là, ma chère Sophie.
Elle nous provient tout droit de Pécancourt.
Tu me charges puis je te gèle, genre. Tu sais, pour avoir le petit moment de silence de 2 secondes pour qu'après ça, le monde commence à m'envoyer chier parce que j'ai frappé une femme.
ça. Oui, alors ça, c'est le documentaire Celle qui lutte, un documentaire de Sarah Barry Godet, qui va bientôt être présenté dans les salles de Montréal. Ben oui, je savais que t'aimerais ça.
Tu piques ma curiosité.
La première était cette semaine, hein, en même temps que justement la première de l'exposition aussi.
D'accord.
Donc, on suit trois femmes qui sont des lutteuses professionnelles et on voit comment elles adorent leur travail, comment elles luttent, puis comment surtout elles conjuguent la vie de famille avec leur art de la scène. Donc, on a Lou O'Farrell.
On la voit avec son bébé, c'est trop drôle.
Ça. On les suit vraiment dans leur quotidien.
Voyons donc.
Celle qu'on vient de voir, que tu voyais avec son bébé, ça, c'est Lou O'Farrell, qui est une des grandes lutteuses québécoises, qui est connue, qui est adorée du public, qui remplit les salles. Après ça, il y a Azaël, qui est la fille avec les cheveux rouges. Lufisto aussi. Donc, ces trois femmes-là qui sont soit au sommet de leur art et comptent peut-être s'en aller pour aller fonder une famille ou pour continuer leur famille. Ou comme Lufisto, elle a 42 ans, puis elle se dit, moi, je veux continuer à me battre, puis je veux être au sommet de mon art. Donc, tu sais, c'est un documentaire sur la lutte, mais c'est aussi juste un bon documentaire.
Non, mais c'est toute la société, ce que ça dit. C'est absolument, absolument fascinant. Ben écoute, j'adore ça parce que tu vois, aujourd'hui, j'avais demandé à recevoir Robert Lepage pour nous parler du spectacle d'hier soir, pour nous parler de l'exposition. Puis il a dit qu'il était malheureusement pas disponible, mais il nous avait suggéré une entrevue avec une lutteuse. Là, tu me donnes le goût, puis je pense, je vais faire une demande, puis demain, on pourrait recevoir une femme lutteuse pour qu'elle nous explique comment ça marche, cette affaire-là. Puis tu sais, je veux dire, je les vois se défoncer, se sauter
mais
sur
oui,
les
c'est
parties
ça, c'est,
basses.
C'est fort, mais c'est de voir, tu sais, toute la force derrière ces femmes-là, des femmes aussi qui sont, qui brisent des tabous, qui sont anticonformistes. Carrément. Puis malgré que la lutte, tu sais, pendant des années, c'était jusqu'en 85, c'était interdit pour les femmes de lutter au Québec. C'était interdit.
Ouais. Moi, niaiseux.
Donc, exact. Je ne savais pas.
Jusqu'en 85.
Oui, c'est jusqu'en
85. Interdit, justement, sûrement à cause de ça, parce que, bon, tu blesses les parties
finalement,
intimes.
Finalement, ils ont pu le faire. Puis après mais ça, attends, c'était la femme sexy seconde. Et tout. Puis là, finalement, c'est vraiment la femme forte puis la femme de théâtre qui
est-ce
a pris
que ce sont
dessus.
Des femmes qui sont lutteuses ou c'est des personnes avec un vagin?
Ce sont toutes les personnes qui ressemblent à des femmes et qui se disent femmes dans l'affaire de la lutte. Mais franchement, Sophie, tu me poses la question en riant, mais dans ce qu'on a vu dans ce documentaire-là, ça n'a pas été soulevé du tout comme
non,
question.
Non. Mais je taquine, parce qu'avec tout ce qui s'est passé avec la Cour suprême, ça a l'air que c'est parfaitement correct et tout à fait normal maintenant. Tu vois, à la place d'utiliser le mot
mais
femme
pour la lutte,
ou conjointement avec le mot femme.
C'est du théâtre, Sophie, donc même si,
ben,
c'était,
oui.
Même si c'était une personne trans, une femme trans qui faisait de la lutte, ça ne changerait pas grand-chose.
Allez voir l'exposition au Musée de la civilisation à Québec. Regardez ce documentaire-là.
Celle qui lutte dès le 29 mars.
Écoutez Cube demain parce qu'on risque d'avoir une lutteuse. Et surtout, allez voir cela. Moi, j'ai capoté ma vie. À un moment donné, on entend des craquements d'os. Là. Oh, mon Dieu, j'ai tellement ri. J'ai crié
mais
d'horreur.
Mais ça a tellement l'air vrai.
Ah, mon Dieu,
moi,
c'est
ce qui
extraordinaire. Vraiment fascinant. Et plein de moments de poésie en plus. Imagine de la lutte et de la poésie. Comment les deux peuvent être conciliables?
Deux personnes qui ne sont jamais allées voir de la lutte, qui en parlent pendant 10 minutes. Hein? C'est ça que ça fait.
La réponse, ça s'appelle Robert Lepage. Merci beaucoup, Cybèle
Olivier. Merci, Sophie.
Attends, qui il faut que je remercie aujourd'hui? Je regarde sur mon papier. Je n'ai plus mon papier. Ah oui.
Marianne
Bessette, qui, évidemment, a fait cette entrevue exclusive avec un revendeur de billets. Florence Lamoureux, qu'on salue. Tristan Brunet-Dupont à la réalisation. Et Max-Émile, ton nom n'est pas écrit, mais je vais le dire, Max-Émile Sawyer. Il a apporté les mouchoirs, donc c'est bien la preuve qu'il a contribué à cette émission. Merci beaucoup et à demain.